Europe Soir Weekend. Stéphane Place. Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, le débat des grandes voix du week-end. Avec nous ce soir, Bruno Jeudy, éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match, la journaliste politique Laetitia Krupa et le spécialiste en communication Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire ce soir, l'info principale de ce dimanche, les Alpes-Maritimes, on l'a largement évoqué, évidemment, avec la perspective de ce confinement territorialisé. Israël à l'heure du déconfinement, un retour à la normale entamé aujourd'hui, et puis à l'heure aussi du passeport vaccinal. La moitié de la population du pays a été vaccinée et le risque de contamination est diminué de plus de 95% selon les estimations. La polémique à Lyon, la municipalité servira à partir de demain et au moins jusqu'aux vacances de Pâques un menu unique sans viande dans les cantines de la ville pour aller plus vite et mieux respecter le protocole contre le Covid, dit la mairie écologiste, idéologie scandaleuse, tweet ce matin. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dénonce une politique moraliste qui exclut les classes populaires. De tout cela, nous allons débattre, discuter, parler avec vous, les grandes voix. A tout de suite.
Stéphane Place, les grandes voix.
Alors évidemment, on commence par Nice, parce que là, on est sur le qui-vive, le service politique d'Europe 1, notre envoyé spécial Marion Gauthier. On attend la décision d'une minute à l'autre de l'exécutif. Laetitia Krupa, on en avait parlé hier, cette fois-ci ça se confirme, c'est une première dans la métropole, c'est vrai à Mayotte, mais pas dans l'Hexagone jusqu'à présent. On va aller vers, pour la première fois, une gestion locale avec des confinements les week-ends qui viennent, là, les deux prochaines semaines, et qui s'appliqueront à tout ou partie des Alpes-Maritimes. On parle de la bande littorale. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution, de ce choix? Ça marque un changement vraiment important?
Oui, évidemment. C'est un changement dans la stratégie, puisque si Nice opte pour ce choix et qui a des raisons sanitaires évidentes, pourquoi d'autres villes, et vous savez comme moi que Dunkerque demande aussi des mesures territorialisées spécifiques, parce que la situation sanitaire est particulière à Dunkerque, et pourquoi pas Paris? Vous voyez, je vais pousser un petit peu loin la réflexion. Ça va être plus compliqué parce qu'on est plus nombreux. Mais c'est vrai qu'en fonction aussi des demandes des élus locaux, parce qu'il faut tenir compte, bien sûr, des demandes des maires des différentes villes et puis des élus du département, de la région. Pourquoi ? Parce que quand l'élu est favorable, comme c'est le cas pour Christian Estrosi, c'est plus simple ensuite de convaincre la population. Si vous voulez, le seuil d'acceptabilité, tout d'un coup, monte d'un cran. Donc, bien sûr que là, il va falloir regarder Nice de très près et voir les jours d'après les demandes des maires, parce qu'elles vont affluer assurément.
Ah justement, c'est la question que je veux poser à Bruno Jeudy. Bonsoir Bruno, vous m'entendez bien ?
Bonsoir Stéphane.
Alors effectivement, ce que dit Laetitia est très intéressant. À partir du moment où on rentre dans cette stratégie-là, qui repose hein, quand même sur la concertation, même si là-dessus il y aurait manifestement beaucoup à dire, Jean Leonetti sur Europe 1 a expliqué qu'il n'y avait pas eu de concertation. Mais on peut s'attendre à ce que des élus comme ça viennent toquer à la porte de l'État en disant « Eh oh, moi il va falloir mettre en place un confinement local, et puis rapidement ?»
Oui, c'est sûr que la notion de confinement territorialisé va revenir à grands pas avec ce qui va être annoncé probablement à Nice. On sait que le maire de Dunkerque, Laetitia le disait, le réclame aussi. On sait surtout que, on voit bien que le variant est en train de gagner le match face au Covid classique. C'est lui qui va dominer sans doute dans les cas de contamination d'ici une semaine ou deux. Et que, il y a des grandes différences entre les régions. Il y a trois régions aujourd'hui, pour faire simple, qui sont très touchées par le variant, hein, les Hauts-de-France, le PACA et l'Île-de-France. Et donc, on voit qu'un confinement général serait sans doute pas adapté et que peut-être que le gouvernement va devoir changer sa stratégie ou plutôt appliquer la stratégie territorialisée, ce qu'il a jusqu'à présent toujours refusé de faire, hormis le cas de l'Outre-mer et de Mayotte, puisque Mayotte qui a un confinement depuis le 5 février, donc ça existe, mais seulement pour l'Outre-mer. Donc ça serait vraiment un changement de stratégie. Et peut-être que ce qui va se passer à Nice va être un petit peu le laboratoire de ce que pourrait vivre dans les jours et les semaines qui viennent sur le reste du territoire. Hélas, parce qu'on voit bien que aujourd'hui l'Élysée indiquait aujourd'hui, là on me disait cet après-midi, les trois dernières semaines ont été plutôt bonnes en termes de sur le front de l'épidémie. Et là, les trois derniers jours sont très mauvais et ce soir il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de l'exécutif.
Ce que disait Olivier Véran hier en déplacement à Nice, mais ça veut dire aussi quand même que dans la gestion politique, il y a peut-être une forme de risque pour Emmanuel Macron parce qu'on va avoir finalement des demandes récurrentes qui vont ouvrir des débats permanents. Ça va être plus compliqué à gérer, non ?
Oui, ce sera plus compliqué à gérer, mais Jean Castex, souvenez-vous, lui, était venu avec l'idée d'installer cette discussion entre le maire et le préfet, le couple maire-préfet. Et puis finalement, à la rentrée, lorsque l'État l'a peut-être mal pris, à Marseille, ils ont voulu faire le couvre-feu, il a annoncé un peu brutalement, la mairie s'est rebellée contre Paris. L'État a ensuite été un peu échaudé. Emmanuel Macron, c'est pas du tout sa grille de lecture, son mode de fonctionnement. Il a refusé. Le conseil scientifique recommandait le confinement territorialisé en janvier. C'était une des options qu'il avait posées sur la table. Donc peut-être que le président va faire son aggiornamento et qu'on va aller vers un confinement ciblé, ce qui serait sans doute une première, mais beaucoup de pays le font. Après tout, pourquoi pas nous, l'Italie, en Allemagne, dans d'autres pays, ça se fait.
Philippe Chaumont-Chevrolet, vous êtes également avec nous pour ces grandes voix. Bon, alors hier, vous disiez vous-même, confinement territorialisé, tout ça c'est du bricolage, il faut aller vers les stratégies que prennent d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, mais Philippe Douste-Blazy, l'ancien ministre de la Santé, les stratégies appliquées en Asie avec zéro Covid. Donc ce soir, vous pensez quoi? Qu'on est encore en train de bricoler et qu'effectivement, on peut même peut-être à un moment se dire, puisqu'après tout c'est une forme d'expérimentation, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Vous y croyez pas? Vous pensez que ça marchera pas?
Moi, j'espère vraiment que ça va marcher. J'espère vraiment totalement que ça va marcher. Le problème, c'est que on a refusé de confiner il y a quelques semaines, quand les variants étaient encore contrôlables entre guillemets, parce que les chiffres s'amélioraient. On a dit, c'est pas, ça va aller. On n'a pas besoin de le faire. N'alourdissons pas les mesures. Bon, du coup, il s'est passé ce que tous les scientifiques avaient prédit qu'il se passerait, et tous les scientifiques qui entourent le chef de l'État en particulier, c'est-à-dire les variants gagnent du terrain, ils sont plus contagieux, donc on a une reprise épidémique, alors qui va être plus forte dans certains territoires qui sont les premiers touchés, puis après, ça va probablement s'étendre, comme le dit Laetitia tout à fait justement, à l'Île-de-France, à d'autres bassins de population très denses. C'est la logique de l'épidémie, le virus, lui, il s'en fiche de savoir si... il faut confiner ou pas confiner, lui, il avance de toute façon de manière brute. Alors, ce qu'il faudrait faire, ce que dit Douste-Blazy, pour une fois, qu'il dit une chose vraiment vraie, parce qu'il a été aussi pro-chloroquine, il a fait quelques erreurs quand même.
Quelques-unes,
mais
oui.
Là, il dit une chose vraie, quelques-unes, il faut quand même le rappeler. Mais ce qu'il dit qui est assez juste, c'est qu'il y a un choix stratégique à faire. Il y a beaucoup de pays qui sont allés vers une stratégie zéro Covid, où on ferme les frontières vraiment, où on applique vraiment le confinement des personnes malades, où on fait vraiment du tracing des contacts, où on va faire du pooling, ce qu'on appelle du pooling, c'est-à-dire on va tester des échantillons de plein de gens en même temps, et s'ils sont tous négatifs, on s'arrête là. Si c'est positif, on va rechercher qui est positif dans le groupe. Il y a les tests salivaires qu'on a mis des mois avec retard à approuver, mais maintenant ils sont là, on peut les utiliser.
Et les premiers seront utilisés dans les écoles demain d'ailleurs. Ouais. Demain, il y aura des tests salivaires dans les écoles, ça commence.
Absolument. On pourrait aller vers du zéro Covid, on pourrait tout à fait changer de stratégie, et ce serait tellement infiniment préférable pour la population qu'il n'y a pas photo, mais à chaque fois qu'on avance cet argument, on dit, c'est fait en Nouvelle-Zélande. Alors on nous dit, en Nouvelle-Zélande, c'est une île. On dit, c'est fait au Vietnam. Le Vietnam, c'est pas tout à fait une démocratie. On dit, on va peut-être prendre l'exemple de la Thaïlande. La Thaïlande, il fait chaud. Voilà, c'est l'argument qu'on nous donne quand même. On va attendre que quelqu'un qui ne soit pas une île, qui soit une démocratie, où il ne fait pas chaud, réussisse à le faire. Et là, on pourra peut-être commencer à avoir une bonne stratégie pour sortir de la crise.
Ok, Laetitia Krupa, par ailleurs, on entend le scepticisme quand même de Philippe. Je ne crois pas que vous le partagiez, vous. En tout cas, ce n'est pas le sentiment que j'ai eu. Il reste aussi des voix. Jean Leonetti le disait, le maire d'Antibes, qui est lui-même médecin, disait tout ça, là, le confinement, c'est archaïque. Il faudrait peut-être attaquer le mal avec des outils du 21e siècle. Et l'outil du 21e siècle, c'est le vaccin. Est-ce que finalement, là, on n'est pas en train d'assister à un certain nombre de mesures qui révèlent en creux qu'on n'est décidément pas au point, pas là où on devrait être sur la stratégie vaccinale?
Ça, c'est une évidence. Mais je pense qu'on joue la montre. Voilà, on a engagé une course contre la montre en essayant au maximum de ne pas confiner. C'est le pari de l'exécutif, c'est-à-dire qu'il faudrait accélérer la campagne de vaccination pour faire en sorte peut-être de localement, alors là c'est ce qui commence avec Nice, confiner localement, mais tenter absolument de ne jamais reboucler le pays entier comme on l'a connu au printemps. D'ailleurs on ne l'a jamais refait, enfin ce deuxième confinement était complètement différent puisque les écoles étaient ouvertes et que quand même le télétravail, bien que les entreprises s'en défendent, n'est semble-t-il, pas encore vraiment majoritaire, ou en tout cas...
Non, ce n'est pas le cas. Voilà, et puis les syndicats de l'inspection du travail disent que c'est très compliqué d'effectuer des contrôles.
Donc vous voyez que là, on est quand même de toute façon depuis cet automne dans des solutions alternatives, parce que ce qu'on a vécu au printemps est compliqué à remettre en place politiquement, ça on le sait, mais aussi, encore une fois, psychologiquement, économiquement, socialement. Voilà, on ne va pas à chaque fois remettre dans la balance tout ce qui pèse versus le sanitaire, mais bien sûr que ces décisions sont très compliquées. Emmanuel Macron a dit qu'il se donnait la fin de la semaine prochaine décider la fin de la semaine prochaine. Ça correspond à la fin des vacances scolaires de la zone C, donc dont Paris. Donc, on verra bien s'il prend la parole pour nous annoncer quelque chose de positif.
Dans un instant, les grandes voix, on va aller dans un pays qui est en train de déconfiner massivement, mais parce qu'il faut le dire aussi, la moitié de sa population est désormais vaccinée, c'est Israël. Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur la stratégie qui donne ses premiers résultats dans ce pays.
Europe Soir Weekend, Stéphane Place, les grandes voix.
Les grandes voix avec ce soir Laetitia Krupa, journaliste politique, Philippe Moreau, Chevrolet, le spécialiste en communication, et Bruno Jeudy, éditorialiste politique et rédacteur en chef de Paris Match. Bruno, on parlait évidemment de la gestion française, et on le voit avec ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes, de cette épidémie et de cette flambée épidémique, en l'occurrence, dans ce département. Parallèlement, arrivent les premières images de ce qui se passe en Israël aujourd'hui, avec ce déconfinement massif, grâce à une stratégie de vaccination qui manifestement produit des effets majeurs. Ça aussi, sur un plan politique, quand chacun d'entre nous va voir ce qui se passe en Israël parce que la campagne de vaccination a été réussie, bah finalement, ça va coller un peu plus de pression encore au gouvernement en France.
Oui, parce que c'est vrai que si beaucoup de Français se sont réjouis que nous n'ayons pas été confinés le 29 janvier, dans le même temps, le gouvernement peine à convaincre sur sa campagne vaccinale. C'est vrai que le mois de février, on a peu vacciné par rapport à d'autres pays, et on sait que ça va monter en puissance seulement au mois de mars. Et parallèlement, eh bien, Stéphane, comme tous les Français, vous regardez la télévision, vous voyez ce qui se passe à l'étranger. Effectivement, Israël aujourd'hui, c'est les images des enfants qui sont dans les rues, un pays qui déconfine, 50% de la population qui a eu au moins une injection. Alors en gros, pour faire simple pour nos auditeurs, Israël, c'est la population de Rhône-Alpes Auvergne.
C'est 9 millions d'habitants.
Imaginez en Israël, hier, il y avait zéro mort, bilan sanitaire, zéro mort. Il y a un mois, il y avait une centaine de morts par jour en Israël. Eh bien, vous prenez le bilan Rhône-Alpes, hélas, il doit y avoir hélas des victimes hier du Covid, et encore davantage il y a un mois. Donc effectivement, on voit bien les effets urgents attendus par la campagne vaccinale en France pour espérer, mais cette situation-là, 50% de la population française. Le président a dit que tous les adultes qui le souhaitaient seraient vaccinés cet été. C'est le pari qu'il a mis sur la table. Espérons qu'il soit tenu. C'est pas un problème de logistique, c'est un problème d'approvisionnement.
Avec un effet boomerang sur un plan politique qui peut être terrible si la promesse n'est pas tenue quand même.
Absolument, c'est une promesse qu'il a lui-même voulu répéter. Son ministre de la Santé s'y était engagé, ça avait été un peu pris un peu à la légère. En fait, Emmanuel Macron est à la télévision sur TF1 et ce soir-là, la chose principale qu'il a dite, c'est ça, c'est d'ici la fin de l'été. Alors donc la fin de l'été, on va dire que c'est mi-septembre, 21 septembre, tous les adultes vaccinés dans ce pays.
Philippe Moreau-Chevrolet, Israël, c'est pas la stratégie asiatique, c'est le vaccin qui permet au pays aujourd'hui de sortir de ce tunnel qui a été très long. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de constater cela? D'abord, pourquoi les Israéliens réussissent assez rapidement? Alors certes, le pays est plus petit, mais ce n'est pas la seule explication. Cette campagne vaccinale, quant à nous, on sent bien qu'on est effectivement en manque de doses et qu'on ne va pas aussi vite qu'on le voudrait.
Tout par rapport à nous, qui aurait dû être un handicap, mais qui ne dépendent pas de la Commission européenne pour leurs achats de vaccins. Alors à la fois, la Commission européenne a été une très bonne chose pour l'Europe parce qu'elle a permis des achats en masse, elle a géré aussi une forme d'équité entre les États, ce qui est important, et elle a quand même mis en œuvre la politique vaccinale. Mais là où Israël a été beaucoup plus malin, c'est qu'il a fait un pari gagnant sur Pfizer. Et il a accepté deux choses. Il a accepté de servir de laboratoire à Pfizer, de fournir les données, en gros, des personnes vaccinées pour que Pfizer puisse voir l'efficacité, les problèmes, les retours, bref. C'était une coopération entre l'État d'Israël et Pfizer pour aussi tester le vaccin grandeur nature, on a envie de dire, même s'il avait été très lourdement testé avant, bien sûr. Et puis le deuxième pari qu'ils ont pris, c'est de vacciner avec une très très forte rapidité, avec beaucoup beaucoup de doses, parce qu'ils ont pu les acheter. Enfin voilà, ils ont. Ça a été l'État pour moi le plus intelligent dans la partie vaccination. Vraiment au monde, on peut dire beaucoup de choses, mais Israël a géré ça d'une manière incroyablement intelligente. C'est un pays qui a l'habitude de la survie aussi, d'organiser sa survie. C'est un pays qui a peut-être plus de réflexes dans ce domaine que nous. Moins de confort, et peut-être que ça explique ça, mais en tout cas, c'est remarquable. Moi, j'ai des amis en Israël qui revivent, quoi, qui peuvent sortir, qui peuvent revoir leurs petits-enfants, leurs enfants, qui peuvent aller voilà, manger les uns chez les autres. Enfin, c'est une libération totale. C'est
Eh bien,
incroyable ce qui se passe là-bas, c'est fantastique.
précisément, dans le journal de 19h, nous irons en Israël et nous serons en ligne avec un témoin de ce qui se passe aujourd'hui et qui, effectivement, manifestement, hein, de ce que j'ai compris, nous racontera exactement ce que vous étiez en train de décrire, ce sentiment de libération. Les grandes voix, ce soir, bah, il y a une polémique, j'allais dire très française, mais elle n'est pas inintéressante. Les cantines à Lyon, le menu sans viande des écolos qui n'est pas du tout du goût du gouvernement. Vous le savez, à partir de demain, la mairie écologiste de Lyon va imposer ce menu sans viande dans les cantines scolaires. Et Gérald Darmanin s'est immiscé dans le débat dès ce matin par un tweet assez direct et rageur en disant c'est grosso modo totalement inadmissible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laetitia Krupa? Alors, on est vraiment sur un problème qui mérite que le ministre de l'Intérieur s'en mêle?
Et le ministre de l'Agriculture, que vous oubliez. Hein,
c'est vrai, il y a Julien de Normandie aussi qui est allé également. Ouais.
Qui est entré dans cette bataille, qui est une bataille éminemment politique, Stéphane. Évidemment, en fait, on a deux camps. Le camp des écolos, Grégory Doucet, maire de Lyon, et le camp du gouvernement, on va dire, qui s'adressent finalement à leur électorat respectif. Que dit le ministre de l'Intérieur? Il parle aux agriculteurs, il parle aux bouchers, il parle surtout aux classes populaires qui n'ont pas assez d'argent, selon lui, pour manger de la viande à la maison.
Et qui n'en mangent qu'à la cantine, enfin, dont les enfants n'en mangent qu'à la cantine.
Exactement. Donc c'est assez habile en termes de communication politique. Pourquoi? Parce qu'il place les écolos dans le camp des élites, des bobos qui sont complètement déconnectés avec la réalité de cette France populaire qui n'a pas assez de moyens pour acheter de la viande et pour en manger à la maison. Sauf que Grégory Doucet lui rétorque en dénonçant la tactique politicienne, puisque Gérard Collomb, qui était donc du camp macroniste, avait pris cette initiative lui-même en mai. Donc, quel est ce problème de menu? Est-ce qu'il faut vraiment un menu sans viande pour pouvoir s'adapter au protocole sanitaire? Parce que c'est ce que dit le maire de Lyon.
L'argument de dire c'est que l'argument. Ça va plus vite.
Juste du poisson et des légumes. Parfois du poisson, parfois des œufs. Bon, c'est l'argument, mais vous voyez bien que derrière là, ce menu qui est en première position, toute la toile de fond est politique.
Alors précisément, Bruno Jeudy, franchement, vous en pensez quoi quand vous voyez le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, Laetitia a raison, hein, qui a annoncé aujourd'hui qu'il saisissait le préfet du Rhône de la question des menus sans viande imposés par cette mairie écologiste? C'est vraiment juste de la politique?
Ah ouais, franchement Stéphane, c'est une polémique en bois, c'est bidon. Ils peuvent pas discuter plutôt que s'envoyer des tweets le matino comme ça. Enfin, franchement, on est les rois. On est les rois pour créer des polémiques. D'abord, un, cette mesure est temporaire. Deux, elle a existé, Laetitia l'a rappelé, c'est Gérard Collomb qui est le père de la mesure. Donc bon, trois, c'est vrai que ça mérite aussi de discuter sur le fond, menu végétarien, est-ce qu'il ne faut pas créer des menus alternatifs? On verra si la mesure doit être pérennisée après la crise sanitaire. Mais je trouve qu'on est les champions pour créer des polémiques comme ça. Ça pue la politique à plein nez. Franchement, c'est ce que détestent les gens.
Alors précisément, donc vous pensez que le recours temporaire à ce menu, qui, c'est ce qu'on avance, hein, vise à fluidifier le service afin que tous les repas puissent être servis durant le temps du déjeuner, etc. Il y a quand même 29 000 repas par jour. Ça, c'est un argument qui peut s'entendre. C'est le pragmatisme, il est du côté des écolos, alors.
Non, franchement, je ne vais pas rentrer dans le détail de la mesure. Écoutons d'abord le fait que c'est une mesure qui est prise dans le cadre de la crise sanitaire pour essayer de fluidifier le fonctionnement des cantines de Lyon. y a forcément une arrière-pensée écolo, puisque le maire est écolo. Encore une fois, Gérard Collomb faisait aussi,
oui,
la mesure. Discutons-en si la mesure est pérennisée, puisque ça fait partie du programme quand même de Grégory Doucet, le maire de Lyon, si elle est pérennisée après la crise sanitaire. Là, peut-être qu'il y aura discussion, et peut-être qu'il y aura cette fois-ci discussion sur viande ou pas dans les menus pour les écoliers lyonnais. Mais là, je trouve que dimanche matin, franchement, le ministre de l'Intérieur en fait un peu beaucoup.
Pas de quoi. Ah là là. Pas de quoi en faire un fromage. Mmh. Les grandes voix, il y a un rituel, hein, vous le savez, dans cette émission, dans ce grand rendez-vous du week-end, ce sont vos lus et entendus. Philippe Moreau-Chevrolet, je crois que vous êtes un peu interpellé quand même par une certaine vidéo dont on a parlé hier et qui est un défi lancé par le président de la République à deux youtubeurs qui ont un succès assez considérable.
Alors, McFly et Carlito, oui, c'est une vidéo qui parle d'un très bon sentiment, qui est de faire une communication virale auprès des jeunes en particulier sur les gestes barrières. Donc l'idée c'est de s'acheter de l'attention médiatique là-dessus. Et puis bien sûr, comme l'ont dit d'ailleurs McFly et Carlito, c'est une opération électorale, hein, on est à un an d'une élection, donc c'est plutôt malin ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il est arrivé à les convaincre de faire ça gratuitement. Il est arrivé à les convaincre de faire deux vidéos, une vidéo geste barrière, et s'ils atteignent 10 millions de vues, qui est un objectif qu'il leur a lui-même fixé, et il les invite à l'Élysée. Et là on est plus dans une vidéo promotionnelle sympa, sur des anecdotes, un concours d'anecdotes, ce que font habituellement McFly et Carlito avec leurs invités. Ils l'ont fait avec David Guetta, par exemple. Alors, ça pose deux questions, cette opération. La première, c'est que le résultat est, au niveau des gestes barrières, c'est quand même assez moyen. Je sais pas si vous l'avez tous regardé.
On l'a regardé à la rédaction de Repos, on l'a regardé cet après-midi, ouais.
Alors, connectez-vous, il y a de bonnes raisons de se connecter, c'est que l'argent qui va être récolté, parce que c'est un rapport de l'argent, va être affecté aux jeunes en situation précaire. Donc c'est McFly et Carlito qui ont décidé ça, c'est super, donc regardez-la. Et ça vous donnera aussi une idée de ce que c'est. Et ça pose problème parce que c'est pas évident, enfin c'est pas leur meilleure production, et honnêtement, le message sanitaire, je suis pas certain qu'on le comprenne. Et l'apparition de la tête de Emmanuel Macron dans les nuages qui donne les 10 commandements des gestes barrières, j'avoue que ça m'a fait marrer. Bon, après, c'est parce que je me souviens que Woody Allen avait fait la même chose dans un de ses films. Bon, c'est rigolo, ça fait partie aussi du style décalé de McFly et Carlito.
Merci.
Le deuxième problème que ça pose, c'est que ce type de communiquer sur un sujet grave comme ça, on aurait quand même préféré que ce soit une campagne publique lourde et depuis des mois, quoi, qu'ils le fassent, et pas McFly et Carlito. Bon.
Merci Philippe. Laetitia Krupa, lui entendu ce week-end.
Oui, moi, il y a une communication, je n'ai pas comprise cette semaine, c'est le recadrage de Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, par Emmanuel Macron, via Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui, à la sortie du Conseil des ministres, a dit deux choses. Il a dit « Emmanuel Macron reste attaché à l'indépendance, attention, attachement absolu, des enseignants-chercheurs. » Et « La priorité du gouvernement est évidemment la situation des étudiants dans la crise sanitaire. » En gros, on lâche la ministre qui a choisi un mauvais timing et certainement aussi un mauvais terme, islamo-gauchisme, dans l'université. Pourtant, j'ai deux remarques, Stéphane, à vous faire, qui me font un peu douter de la crédibilité de ce remontage de bretelles. Un, Frédéric Vidal, elle nous fait la une du JDD aujourd'hui, ça veut dire qu'elle signe, d'accord, et elle continue de dire qu'il y aura une enquête qu'elle va lancer dans les universités. Impossible qu'elle le fasse sans l'aval de Matignon, qui a certainement l'aval de l'Élysée. Et surtout, deux, Emmanuel Macron, qui aurait dit en propos privé le 10 juin, rapporté dans le monde universitaire a été coupable, il a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste, cela revient à casser la République en deux, c'est exactement la même chose.
Merci Laetitia, c'était donc votre coup de gueule. Bruno, je dis rapidement, mais pour un coureur de fond comme vous, c'est pas un problème, lu et entendu ce week-end.
Alors c'est un chiffre, hein, c'est la publicité pour Paris Match, tableau de bord, 50% de bonnes opinions pour Emmanuel Macron, c'est simple, il n'avait pas atteint ce niveau, il redécouvre la popularité, hein, il n'avait pas atteint ce niveau depuis avril 2018, hein, donc il gagne un point, 50%, c'est à peu près deux fois plus que François Hollande à la même époque, une vingtaine de points au-dessus de Nicolas Sarkozy à la même époque. C'est une situation enviable pour Emmanuel Macron à moins de 18 mois de la présidentielle. Je note aussi que dans ce tableau de bord, il y a 5 membres du gouvernement, dont le président, enfin plus le président, qui sont dans les 10 premiers. Donc la crise sanitaire, elle est en train de basculer du bon côté pour peut-être cet exécutif.
Très bien, ben voilà qui est très clair. Merci les grandes voix, merci Laetitia Krupa, journaliste politique,
merci.
Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication. Merci Bruno Jeudy, j'ai été très content de vous compter parmi nous ce soir. Je rappelle que vous êtes éditorialiste politique et rédacteur en chef à Paris Match. Rendez-vous avec vous le week-end prochain avec Wendy Bouchard qui rentrera en pleine forme de ses quelques jours de vacances. Tiens, j'en profite pour l'embrasser, Wendy.